Voilà, bonjour à chacun. J'espère que vous êtes tous bien installés, ça va? Alors j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce lieu de culte ce matin. Alors je remercie déjà l'équipe technique, là au fond, qui assure la sonorisation et puis le streaming pour ce culte. Alors merci aussi à ceux qui ont préparé les locaux, à l'équipe antivirus, qui se charge de les préparer pour qu'on puisse vivre ce moment dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, que nous vous demandons évidemment de respecter pour qu'on puisse continuer à vivre ces cultes en présentiel. Merci d'avance. Alors ce matin, c'est Xavier Perrin et Jean-Pierre Francioli qui assureront la partie musicale. Merci aussi. Petite remarque au passage. Normalement, selon les mesures sanitaires, il n'est pas autorisé de jouer d'instruments avant. Mais en fait, comme Xavier a un accessoire ou une sourdine, on a le droit. Donc voilà, pour ceux qui... Donc c'est... Ça va bien. Donc merci à Xavier et Jean-Pierre pour la musique aussi. Et c'est Philippe qui apportera le message. Alors, une fois n'est pas coutume, nous commencerons par les annonces. Je crois que c'est Elisabeth qui fera les annonces. J'ai juste la place.
Bonjour. Alors, juste quelques annonces. Alors, comme Jean-Christophe l'a dit, on peut continuer nos activités malgré la situation un peu compliquée. Alors, on vous rappelle que pour qu'on puisse continuer nos activités, notre Église vit, mais elle vit aussi par les dons que vous faites. Alors, on vous rappelle qu'il y a la boîte sur l'étagère à la sortie. Il y a possibilité de faire un don par Twint ou par un don sur le CCP. Alors, merci pour votre générosité qui, jusqu'à maintenant, ont vraiment permis de couvrir nos frais, que ce soit pour payer nos pasteurs, que ce soit pour l'entretien du bâtiment, pour soutenir aussi la mission et puis l'ensemble de nos églises frais. Alors, merci pour votre générosité. Merci d'y penser. Et c'est l'occasion de vous rappeler que nos pasteurs sont à votre disposition. Alors, c'est vrai, on a envoyé, enfin, vous a recommandé de ne pas venir sans prendre rendez-vous, mais on n'aimerait pas que ça vous empêche de venir et puis que vous n'osiez plus prendre rendez-vous ou ne plus venir voir nos pasteurs. Ils sont à votre disposition. Alors oui, peut-être, mais si vraiment, bon, il y a une urgence, un petit coup de fil, ça va aussi. Et ils se recommandent. En tout cas, ils n'auraient pas envie que vous n'osiez plus venir parce qu'on a fait cette recommandation. Alors, essayons de faire la part des choses et n'hésitez pas à venir les voir. Ils vous attendent. Et voilà, il y aura une autre annonce que Philippe fera plus tard dans le culte.
Voilà, merci. Alors, comme nous ne pouvons pas chanter, malheureusement, j'ai un peu fusionné l'introduction du culte avec et le temps de louange, le tout nous préparant au message. Alors, il y aura trois chants qui seront joués par l'équipe musicale et qui seront projetés. Et après chaque chant, je vous invite, si vous avez une pensée ou une prière ou un petit témoignage éventuellement, à pouvoir intervenir, de manière à ce qu'il y ait un petit peu d'interaction entre mes prises de parole. Nous aurons également un temps de prière communautaire après le message. Eric, est-ce que tu pourrais projeter le dessin éventuellement? Tu as réussi à la voir, hein? Voilà, ok. Donc, ce dimanche, nous continuerons l'étude de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Vous avez le dessin ici de cette série, dessin qui a été fait par Célina. Alors voilà. Alors comme déjà mentionné, je vous accueille, j'ai le plaisir de vous accueillir ici. Ça fait plaisir de vous voir. Et puis, depuis un certain temps déjà, notre lieu de culte s'étend jusque chez tous ceux qui nous suivent par Internet. Et par conséquent, je les accueille aussi parmi nous. En y réfléchissant, je me suis dit que cette histoire de streaming, c'était pas sans rapport avec le texte qui servira de base à la prédication de Philippe. Ah, c'est sûr qu'à l'époque de Paul, où Paul écrit aux Thessaloniciens, on ne peut pas suivre le culte de l'église de Thessalonique en visioconférence. Cette église ne pouvait donc pas faire le buzz sur Internet. Et pourtant, Paul dit aux Thessaloniciens, je cite, « La nouvelle de votre foi s'est répandue en tout lieu. » Enfin, « s'est répandue en tout lieu. » Pardon. « La nouvelle de votre foi s'est répandue en tout lieu. » Paul dit même qu'ils sont devenus des modèles pour les croyants de toute leur région. Tout ça sans Internet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il donc passé? Que s'est-il donc passé pour que quelques Thessaloniciens, jeunes convertis de surcroît, deviennent, en assez peu de temps, un foyer épidémique d'une foi nouvelle? Cette église de Thessalonique, c'est un cluster qui propage la foi en tout lieu. Leur foi est contagieuse. Attention, elle pourrait vous atteindre ce matin. Quand je lis ça, j'en viens à me demander si des fois je suis pas un peu un chrétien asymptomatique. Donc, que s'est-il passé? Le texte que nous lirons, il parle de conversion. Mais avant celle-ci, il y est fait mention d'un choix de Dieu de nous sauver. C'est Dieu qui prend l'initiative de nous sauver, de nous délivrer du mal. Et quand Dieu décide quelque chose, c'est toujours pour le bien. C'est toujours pour mon bien, pour notre bien. Dieu prend l'initiative de nous ramener à lui. On le voit après la chute d'Adam et Ève. Il fait aussi alliance avec Noé, avec Moïse, le peuple d'Israël, avec David. Lorsque le peuple s'égare, il y a des prophètes qui ramènent le peuple à Dieu ou qui les reprend. Puis ensuite, Dieu prend l'initiative d'envoyer Jésus-Christ pour nous sauver. Dieu donne ensuite son esprit aux disciples pour propager cette bonne nouvelle de Jérusalem vers la Samarie et aux extrémités de la terre. Et enfin, c'est grâce à une nuée de témoins que cette bonne nouvelle nous est parvenue. Alors voilà la première étape d'une foi contagieuse, c'est l'initiative de Dieu qui vient nous sauver, nous délivrer du mal. Et c'est ce que nous rappelle le chant que nous allons chanter à plein poumon, mais intérieurement, maintenant. Alors suite à ce chant, comme annoncé, si quelques-uns veulent prier déjà ou si quelqu'un veut réagir, c'est possible. Car Dieu a fait le serment de nous délivrer. L'initiative de Dieu de nous délivrer appelle à un mouvement de conversion. Il y a un demi-tour à faire. Il y a quelqu'un vers qui se tourner et il y a des choses à abandonner. Quelqu'un vers qui se tourner, Jésus-Christ, des choses à abandonner, les idoles. Notre responsabilité, c'est de nous détourner des idoles pour nous tourner justement vers Jésus-Christ. L'idolâtrie. Selon moi, c'est quand même tenter de manipuler Dieu pour qu'il fasse ma volonté plutôt que la sienne. Mes idoles ne sont-elles pas ces petits stratagèmes que je mets en place pour tenter de forcer Dieu à faire ce que j'ai envie qu'il fasse? Des points cumulus, en quelque sorte. Hein. Quand j'en ai assez, Dieu me doit quelque chose. Mais Dieu ne serait-il pas assez grand pour que j'aie à lui dire ce qu'il a à faire? Ses plans pour moi ne seraient-ils pas assez bons pour que je tente de les lui faire changer au lieu de les accueillir par la foi? De l'idolâtrie, c'est moi qui est au centre. C'est moi qui suis au centre, moi, ma volonté. Dans l'Évangile, c'est Dieu qui est au centre, Dieu et sa volonté. Alors contre l'idolâtrie, le remède, c'est de se convertir tout à nouveau, en se tournant vers le Seigneur, en se rappelant de sa bonté et de sa grandeur, et que c'est lui seul qui mérite la gloire et l'adoration. C'est justement ce qu'exprime le chant que nous aurons maintenant. Nous nous tournons vers lui. Encore une fois, si l'un ou l'autre veut prier après ou dire quelque chose, pas de problème.
semaine, Seigneur, notre privilège est de pouvoir nous tourner vers toi. Nous voulons accueillir ton salut, ta paix, ta sainteté, ta grandeur, ta majesté, ta proximité aussi. Nous reconnaissons humblement que nous avons besoin de toi, Seigneur, que nous t'aimons et que nous voulons t'offrir aussi un culte qui t'honore et des vies qui te rendent gloire. Merci de venir à notre rencontre, dans le nom de Jésus. Amen.
Oui, Seigneur, tu nous appelles à la liberté, tu nous appelles à vivre libre avec toi. C'est vrai, Seigneur, nous reconnaissons que ces idoles, elles nous entravent cette liberté que toi tu donnes. Seigneur Jésus, nous puissions en être conscients et Seigneur, de nous déposer au pied de ta croix. Car Seigneur, dans cette croix, Seigneur, tu as fait l'œuvre qui nous a libérés. Alors, Seigneur Jésus, nous voulons savoir et se rappeler qu'il y a la croix, ta croix, ton sacrifice, c'est pour nous libérer, Seigneur, et pour ces idoles, Seigneur, disparaissent de nos vies.
La conversion, c'est l'aboutissement d'une démarche de retour à Dieu, d'une démarche de retour à Dieu. Mais c'est également un point de départ de la marche par la foi, sous la conduite de l'Esprit. Se convertir, c'est aussi demander que cet Esprit de Dieu vienne dans nos vies. Pour exprimer cela, le chant suivant utilise les images du baptême, de l'ondée. Il fait aussi référence au souffle de Jésus sur ses disciples pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Paul affirmera même que chaque chrétien, chaque converti est le temple du Saint-Esprit. Cela m'a toujours frappé qu'il dise cela au début de sa lettre aux Corinthiens. Parce que quand Paul dit cela, on se dit ouais, les Corinthiens, c'est des super chrétiens, puisqu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Bon, quand vous lisez la suite de la lettre, on déchante un peu. Et pourtant, les chrétiens de Corinthe sont le temple du Saint-Esprit. Si Paul le dit, c'est... Hein ? Comme quoi, le Saint-Esprit ne vient pas habiter seulement dans des palaces 5 étoiles. Mais eh bien, y réfléchir, Jésus avait montré l'exemple. Il n'est pas né, par exemple, dans une maternité 5 étoiles. Mais dans une simple étable. Alors, à l'écoute de ce prochain chant, demandons à Dieu de venir habiter nos vies par son esprit. Ah, elles ne sont pas 5 étoiles, nos vies, mais elles sont tellement précieuses à ses yeux. Alors, demandons-lui d'en faire son temple à sa gloire. Et demandons-lui de rendre notre foi virale. Viens, Esprit de Dieu.
Bonjour à chacun, chacune. Heureux vraiment de vous retrouver ce matin. J'aimerais remercier celles et ceux qui rendent ces cultes possibles, y compris dans ces petites choses qui font qu'il est bon de se retrouver. Un bouquet de fleurs, des escaliers dégagés, une technique fluide, un accueil piccolo bello, président qui a pris le soin d'y mettre du cœur, des musiciens, dont un qu'on n'avait pas encore entendu jouer ici. C'est génial, non? Et puis vous toutes et tous, l'Église, c'est ça. Ici, en présence ou à la maison, c'est ça. On est là pour vivre des choses devant Dieu ensemble. Merci de prendre le soin de vous inscrire et puis d'honorer les quelques rendez-vous que l'on propose. C'est une grande ville, une grande ville. C'est une grande ville qui est située sur des axes maritimes stratégiques. Nord, sud, est, ouest. C'est une grande ville et surtout c'est une ville portuaire. Et comme toute ville portuaire, c'est donc une ville qui voit passer beaucoup de bateaux et beaucoup de marins. C'est une grande ville marchande. Il y a de l'argent dans cette ville. La population a des origines variées. Et même si une culture nationale prédomine, il y a une communauté religieuse qui commence à se faire remarquer. Dans cette grande ville, les citoyens ne sont pas toujours bien protégé par la loi. Nous le découvrirons. Il y a de la corruption et les magistrats se plient parfois devant des groupes de pression. Les spectacles grand public sont sans retenue. On trouve dans cette grande ville tous les ressorts de la débauche des sens. Une grande ville portuaire. Ce pourrait être Amsterdam, bien sûr. Ce pourrait être Bangkok ou Marseille ou Corinthe. Mais c'est un peu plus loin que Corinthe. C'est donc Thessalonique. Et il y a exactement 1980 ans, cette ville a vu le commencement d'une communauté chrétienne. Les historiens actuels rapportent que la transmission de la foi depuis 1980 ans dans cette ville chrétienne de Thessalonique n'a jamais cessé. C'est probablement quelque chose d'unique dans le monde, depuis que l'Évangile existe. Il y a 1980 ans, cette ville de Thessalonique a donc vu le commencement d'une église chrétienne, d'une communauté chrétienne, l'une des toutes premières en Europe. Et ce que nous allons découvrir ce matin, c'est que cette ville, cette église, a connu des débuts difficiles, compliqués, exigeants. Mais en même temps, c'était un démarrage exemplaire. Au travers de cette lettre aux Thessaloniciens, Paul va évoquer plusieurs thèmes sensibles. Par exemple, Est-ce que nous sommes des modèles les uns pour les autres? Est-ce que nous progressons dans la sainteté? Ou comment est-ce que nous attendons le retour de Christ? Est-ce que notre vie d'Église honore Dieu par une bonne attitude personnelle et puis des relations fraternelles, saines entre nous? Avec Célina, nous allons parcourir cette lettre de bout en bout jusqu'au mois de juin. Et puis le mardi suivant chacune des prédications, nous vous proposons donc un atelier biblique en ligne. Pour revenir sur ce que nous avons évoqué le dimanche, pour partager, pour questionner, pour creuser, pour faire suite dans la vie quotidienne. L'idée, c'est de mettre en commun. Ce sera sur la plateforme Meet. Et pour aujourd'hui, je vais me contenter du tout début de la lettre et voir ce que nous pouvons apprendre de ce démarrage difficile mais exemplaire à Thessalonique. Où est-ce que nous trouvons le démarrage difficile? Eh bien, en acte 17, que Paul Robert a commenté par le menu pour nous dimanche prochain, et c'était précieux d'avoir cette approche. L'apôtre Paul, avec Timothée et Silas, Sylvain, a été forcé de quitter la ville de Philippe, après y avoir été battu et puis emprisonné. Et voilà que le trio arrive à Thessalonique. Et comme à son habitude, nous dit le texte, se rend à la synagogue et démontre là, à la synagogue, comment Jésus a accompli les prophéties bibliques de l'Ancien Testament concernant le Messie. Et comme d'habitude, eh ben, le public se divise. Certains sont convaincus, on trouve quelques juifs de souche, on trouve des païens convertis au judaïsme, et puis on trouve des femmes de la haute société. Et d'autres s'opposent à l'Évangile. Et ils n'ont d'autre argument que la force. Et ils organisent une manifestation de rue avec les casseurs habituels. Gilets jaunes de l'époque. Quelques chrétiens, tout juste convertis, se trouvent traînés devant les magistrats. On monte une cabale, on dit qu'ils bouleversent le monde entier. Et très rapidement, Paul, Silas et Timothée sont exfiltrés de la ville de Thessalonique et se rendent à Bérée. Des débuts difficiles, donc. On pourrait se poser la question, combien de temps il faut pour créer une église? Il y a plein de bouquins qui sont édités chaque année sur l'implantation d'églises. Ben là, la Bible nous dit qu'il faut 3 semaines d'enseignement à la synagogue. Acte 17, verset 2. 3 sabbats. Quelques semaines de plus, sans doute, en ville, pour fonder une église dans la douleur. Et ce que je me pose comme question quand je lis ce texte, c'est ce que vont devenir ces chrétiens, ces chrétiennes, tout juste convertis. Je me demande, est-ce qu'ils vont tenir le coup? Est-ce qu'ils vont résister aux pressions sociales? Est-ce qu'ils vont résister au cours du monde? Est-ce qu'ils vont résister aux persécutions? Est-ce qu'ils vont résister à la relativisation de la foi? C'est donc dans ce contexte difficile que Paul leur écrit. Et c'est l'origine de notre première lettre aux Thessaloniciens, et on va juste en lire les 10 premiers versets.
De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église de Thessalonique, qui appartient à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous remercions toujours Dieu pour vous tous et nous faisons sans cesse mention de vous dans nos prières. En effet, nous nous rappelons votre foi si active, votre amour qui se donne de la peine et votre solide espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu le Père. Nous savons, frères et sœurs, que vous êtes aimés de Dieu et qu'il vous a choisis. En effet, quand nous vous avons annoncé la bonne nouvelle, ce ne fut pas seulement en parole, mais aussi en puissance, avec le secours de l'Esprit-Saint et avec une entière conviction. Vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous en votre faveur. Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, malgré la détresse qui était la vôtre. Vous avez reçu la parole de Dieu avec la joie qui vient de l'Esprit-Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. En effet, non seulement la parole de Dieu s'est propagée de chez vous dans la Macédoine et l'Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi s'est répandue en tout lieu. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler. Tous racontent comment vous nous avez accueillis quand nous sommes allés chez vous. Ils disent comment vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers Dieu afin de le servir, lui, le Dieu vivant et vrai, en attendant que son Fils revienne des cieux. C'est lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.
Comment vont-ils tenir ces chrétiens tout frais ? Paul a reçu des bonnes nouvelles, et du coup, on le voit dans sa lettre, c'est le soulagement au moment où il leur écrit. Le démarrage de l'Église a été difficile, compliqué, exigeant, mais l'attitude des chrétiens a été exemplaire. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul rend grâce. Leur attitude a été exemplaire. Et puis, si vous connaissez un peu la Bible, vous aurez peut-être remarqué au verset 3 une célèbre trilogie. La foi, l'amour et l'espérance. On pourrait dire l'ADN chrétien. On pourrait parler des principes actifs, la foi, l'amour et l'espérance. Pas une foi en l'air, pas une foi vague, pas une foi molle, pas une foi qui reste au niveau des connaissances abstraites. Mais la Bible dit une foi agissante, selon la Bible du Semeur. Une foi efficace, selon la Bible en français courant. L'œuvre de la foi, selon la Bible à la Colombe ou la Taube. Une foi qui fait. La foi et les œuvres. Ça devrait nous rappeler des lettres que Paul écrira bien plus tard. Hein. Mais ce qu'il va écrire aux Galates, ce qu'il va écrire aux Romains, ou encore ce que Jacques, le frère du Seigneur Jésus, va écrire. Une foi qui fait. Parce qu'une foi qui n'agit pas, ce n'est pas la foi chrétienne. C'est de la religion. C'est de la religiosité. C'est une apparence culturelle. C'est un vernis qui se craquelle à l'épreuve des faits qui peuvent être cruels parfois. La foi chrétienne, c'est une foi qui fait. La foi, l'amour et l'espérance. L'amour. Pas un amour vague. Pas un amour mièvre, pas un amour qui reste au niveau de ces déclarations abstraites, mais un amour actif, selon la Bible du Sommeur et la Bible en français courant. Un amour actif. Le travail de l'amour, selon la Bible à la Colombe ou la Taube, le travail de l'amour. Je trouve cette description absolument géniale. Parce que l'amour qui ne travaille pas, ce n'est pas l'amour chrétien. C'est du sentimentalisme. Mais l'amour exige de l'exercice, de l'action et du concret. Et dans les temps particuliers que nous vivons, l'amour est exigeant. Et je suis tellement reconnaissant de le voir se manifester au milieu de nous. Des petits gestes simples. Un coup de fil, une lettre, une invitation. Je pense à toi. L'amour qui y fait. La foi, l'amour et l'espérance. Encore une fois, pas une espérance en l'air, pas une espérance vague, pas une espérance au niveau de l'autosuggestion ou du fatalisme, mais une espérance ferme, une espérance solide, celle qui vous permet de voir plus loin que les difficultés de la vie. Celle qui vous permet de voir plus loin que les persécutions du moment. Celle qui vous permet de voir plus loin que les sollicitations nombreuses de l'ici-bas et du maintenant. C'est l'espérance en Jésus-Christ, dit le texte. Une espérance qui nous fait entrer dans la vraie vie. C'est quoi la vraie vie ? La vraie vie, c'est celle qui se manifestera avec puissance à la fin de l'histoire humaine, dit notre texte. Une espérance qui n'est pas ancrée en Jésus-Christ, une espérance qui n'intègre pas la vie éternelle, ce n'est pas l'espérance chrétienne. C'est de l'optimisme, c'est de l'idéalisme, et on n'est pas tous égaux, hein. Il y a des gens, c'est des optimistes de nature. Puis d'autres pas. Mais et l'un et l'autre doivent pouvoir avoir une espérance chrétienne qui les mène plus loin que l'ici et le maintenant. L'espérance chrétienne se fonde en Jésus-Christ, ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il fera, sa vie et son œuvre. D'ailleurs, la fin du chapitre 1er au verset 10 évoque un aspect particulier de l'espérance chrétienne, qui va saturer la fin de la lettre aux Thessaloniciens. Cet aspect particulier, c'est le fait d'attendre que revienne du ciel le Fils de Dieu, Jésus, qui nous délivre du jugement à venir. Dans la jauge de nos attentes, on en est où avec l'attente du retour de Christ ? Moi, j'attends impatiemment de pouvoir aller manger une assiette de filet de perche avec ma femme. J'attends impatiemment de pouvoir boire l'apéro avec des amis bien-aimés, avec une planche de saucisson. J'attends que mes enfants aient fini leurs études et brillamment réussi, bien sûr. J'attends les vacances, en espérant pouvoir partir un peu. Elle en est où, ma jauge de l'attente de Jésus-Christ ? Ces dernières semaines, ces derniers mois, nous avons dit au revoir à beaucoup de bien-aimés. Et souvent, quand nous nous retrouvons autour de la tombe, nous rappelons que le retour de Jésus-Christ sature notre foi. Nous rappelons que notre espérance dépasse ce moment où on met un cercueil en terre. Nous attendons que revienne du ciel le Fils de Dieu, Jésus. Je ne sais pas, moi, à quel moment Dieu va écrire la fin de l'histoire, mais j'attends impatiemment la rencontre avec Jésus. que le monde soit bouleversé ou que je meure avant. Paul aurait certainement pu célébrer plusieurs qualités manifestées par ces chrétiens de fraîche date. Et il le fera plus loin dans la lettre. Mais en premier lieu, il souligne leur foi, leur amour, leur espérance. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Comment est-ce qu'on en arrive à ce qu'on loue la foi, l'amour et l'espérance de jeunes chrétiens? Eh bien, c'est qu'ils se sont convertis, ces gens. Ils se sont convertis. Je vois trois facteurs qui sont présents à chaque fois que quelqu'un se tourne vers Christ. Trois facteurs. Je vois l'action de Dieu. Je vois l'action des hommes. Et je vois le choix de celles et ceux qui se convertissent. L'action de Dieu. Au verset 4, Dieu vous a choisi. C'est assez génial quand même ça. C'est parfait le fait que Dieu nous ait choisis. C'est assez divin en fait. Et un peu mystérieux. C'est dans les projets insondables du Dieu Tout-Puissant. Il nous a choisis. Je ne comprends pas le truc, surtout quand je regarde ma vie. Mais c'est ça, Dieu vous a choisi. C'est quelque chose qui me dépasse. Que Dieu ait pu penser à moi, à nous, d'aussi loin. C'est hors de portée pour nous que Dieu nous ait choisis. Il faut compléter un peu donc. Au verset 5, le Saint-Esprit a accompagné ceux qui annonçaient l'Évangile à Thessalonique. Il y avait de la force de conviction dans leurs paroles. Au verset 6, Paul dit que le Saint-Esprit a mis de la joie dans leur cœur au milieu même d'épreuves nombreuses. Les circonstances étaient défavorables et pourtant le Saint-Esprit leur a permis non seulement de tenir, mais de se réjouir. C'est pas un miracle, ça? En Jean 3, au verset 8, Jésus dit que l'Esprit souffle où il veut, qu'il fait naître de nouveau, qu'il fait naître d'en haut, qu'il produit en nous des fruits comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Quel programme pour ma vie, purée. Donc, la conversion vient de Dieu par l'action puissante de son esprit. Mais en même temps, la conversion vient de l'action des hommes. Au verset 5 toujours, Paul, Timothée et Silas ont annoncé la bonne nouvelle. On a déjà mentionné le chapitre 17 des Actes des Apôtres. Ils se sont appuyés sur ce que nous appelons l'Ancien Testament pour démontrer que le Messie promis devait mourir et ressusciter. Ils se sont appuyés sur le témoignage des témoins oculaires pour dire que Jésus est le Messie, qu'il n'y en a pas d'autre, que le Sauveur c'est Jésus. Ils ont affirmé leur foi personnelle en lui, en Christ. Ils ont parlé de Jésus. Mais ce n'était pas que des paroles. Parce que la vie de Paul et de ses compagnons était aussi une vie parlante. Verset 5. Vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Une vie qui parle. On n'est pas toujours tous à l'aise avec la parole, les mots, la proclamation. Mais notre vie parle. Paul évoque l'exemple que lui-même a donné dans l'épreuve. Puis plus tard dans l'épître, on verra qu'il y a un certain nombre d'autres domaines où notre trio était sans reproche. Le travail, l'honnêteté, le désintéressement financier, une argumentation juste. Donc une vie qui montre Dieu à l'œuvre. Parce que ça n'a pas de sens de parler pour Jésus-Christ quand on ne vit pas pour lui. Ça n'a pas de sens d'annoncer l'Évangile sans le mettre en pratique. Le message de nos trois amis était confirmé et par l'action du Saint-Esprit et par l'intégrité de leur vie, une vie intègre. Et derrière la conversion des chrétiens de Thessalonique, il y a donc l'action de Dieu, l'action d'une petite équipe apostolique, et puis finalement, il y a leur propre choix. Et c'est ça que je veux regarder d'un peu plus près encore, en quelques instants. Verset 9. Ils ont accueilli l'équipe apostolique. Ils ont cru à son message. Et surtout, dit Paul, vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. J'aime tellement ce verset. Je pense que c'est le verset de la Bible qui exprime le mieux ce qu'implique une conversion. Se détourner de quelque chose pour se tourner vers quelqu'un. Il annonce une rupture et quelque chose de neuf. Concrètement, la majorité des convertis de Thessalonique ont eu à se détourner des idoles. Mettez-vous un peu à leur place. Dès leur plus jeune âge, ils ont vécu au milieu des statues de dieux grecs. Ils ont vu leurs parents, leurs grands-parents offrir de l'encens, du vin, un coq pour les dieux. Leur propre vie professionnelle était placée sous le patronage d'un dieu. On va aller manger dans son temple de temps en temps. On prête serment au nom des dieux. La viande que l'on trouve sur les étals du marché a d'abord été offerte à un dieu quelconque. Et maintenant, avec l'arrivée de l'Évangile, c'est la rupture. Pas seulement sur le plan religieux, il y a des complications dans les relations avec la famille, avec les amis, avec les collègues. Est-ce qu'un médecin comme Luc doit décrocher le serment d'Hippocrate dans son bureau? Certains loisirs posent des problèmes de conscience. Cette notion de rupture, je sais qu'elle peut poser problème à beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous qui naissent dans une famille chrétienne et qui grandissent dans la foi sans trop d'à-coups, tombés dans la marmite. Et puis tôt ou tard, ce que l'on a compris progressivement se transforme tôt ou tard en conviction personnelle, en engagement responsable. Si on ne sait pas trop quand ou combien de fois on s'est détourné du mal pour suivre Jésus, on sait qu'on veut marcher avec lui. Et alors on se fait baptiser, par exemple. Timothée, l'un des trois évangélistes, il a eu ce genre de parcours, Timothée, parce que sa grand-mère et sa mère l'ont élevé dans la foi en Dieu. Il connaissait les Écritures dès son enfance. Donc, Timothée, c'est quelqu'un qui, probablement comme beaucoup d'entre nous, n'a pas vécu une conversion de rupture, mais une conversion de continuité. Mais Paul, oui, il a vécu une conversion de rupture. C'était sur le chemin de Damas. Et puis les chrétiens de Thessalonique aussi, ils ont vécu une conversion de rupture sur trois sabbats. Pas grand-chose, trois sabbats, trois semaines. Ils se sont tournés vers Dieu en se détournant des idoles. Qu'est-ce qu'ils ont mis à la place des idoles? Le Dieu vivant et vrai. Le Dieu qui doit avoir la première place, la meilleure place. Ils se sont tournés vers lui, ils sont entrés dans une relation avec lui, une relation filiale en ayant Dieu comme père. Une relation qui les libère d'un tas de choses. Une relation nouvelle qui fait d'eux, qui fait d'elles ce qu'ils auraient toujours dû être. En lien avec Dieu, ils deviennent enfin pleinement humains. C'est ça être chrétien, être chrétienne. C'est enfin être pleinement humain. Avant, il manque un truc. Avant, on n'est pas dans le bon camp. On n'a pas le bon père. La bonne identité. Quand on devient chrétien, quand on devient chrétienne, on devient pleinement humain. C'est un nouveau départ. Pour eux, c'est un demi-tour. Mais remarquez que ce n'est pas un demi-tour qui est fait dans un parking souterrain. C'est un demi-tour qui respecte le code de la route, qui se fait sur une route nationale pour repartir dans une autre direction. Vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Pour servir. Il y a un engagement dans la durée. Il y a une attitude d'humilité, d'obéissance, de service. On devient un nouveau maillon dans la chaîne de l'Évangile. Des serviteurs, des servantes, comme vous et moi. Pas des gens parfaits. Des gens qui se mettent en route. Paul a été un modèle pour ceux de Thessalonique. Et eux deviennent un modèle pour les croyants de toute la région. Ils vont manifester une foi agissante, un amour actif, une espérance qui les porte plus loin que les tracas quotidiens. On vient de faire une tentative de voyage vers ce texte. On a essayé, et c'est ce qu'on va faire avec Célina dans les semaines qui viennent, on va essayer d'interpréter la Bible. Mais laissons maintenant ce texte-là faire le voyage vers nous, après que nous l'ayons fait vers lui. Laissons la Bible nous interpréter. Faut-il, moi, que je me détourne de quelque chose ? Faut-il que je naisse de nouveau ? Que je reparte à zéro ? Jésus est venu pour vous sauver, pour vous donner une vie nouvelle, pour vous sauver. Faut-il, moi, que je m'engage envers Christ ? Est-ce qu'il a les coudées franches dans ma vie ? Est-ce qu'il a une bonne place, la bonne place ? Il le vaut bien, non ? Faut-il, moi, que je repense mon engagement ? Est-ce que je donne un peu de ce que j'ai tellement reçu ? Moi, je trouve que ces quelques chrétiens de l'autre bout de la Méditerranée, il y a 1980 ans, ont encore des choses à nous dire. Les débuts de leur Église étaient difficiles, mais leur comportement était exemplaire. Puissions-nous nous en inspirer, et comme dit mardi soir, si vous le souhaitez, nous retrouver pour échanger un peu ensemble, reprendre des choses qui questionnent, qui responsabilisent autrement. Prenons le temps d'aller plus loin ensemble, plus de temps que juste un petit moment le dimanche matin. Amen.
En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ, je le tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant. Ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris par la mort de Jésus. Je vis racheté par son sang. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ, je tiendrai les plans des hommes.
Continuons ce moment de méditation sur la base aussi des paroles du chant que nous avons entendu. C'est vrai que c'est un peu dommage que ceux qui sont à distance ne nous entendent pas, mais voilà. Continuons cette méditation quelques instants encore. Amen.
Annonçons autour de nous la bonne nouvelle. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous aides à être des témoins dans ce monde, des témoins dans notre quartier, des témoins dans notre maison, des témoins dans notre famille, que nous annonçons autour de nous cette bonne nouvelle. Donne-nous la force, Seigneur. Amen.
Amen. Merci à chacun pour les réactions qu'il y a eu, les prières, vos interventions aussi. C'est riche de pouvoir partager. Merci à Philippe pour le message. Nous arrivons lentement mais sûrement au terme de notre culte, que nous prolongerons si possible dehors. Il y a un rayon de soleil, alors voilà. Et j'invite maintenant Philippe pour la bénédiction finale.
Je vous invite à vous lever et j'aimerais nous envoyer dans cette nouvelle semaine avec le verset 4, tout simple mais tellement fort, de cette première aux Thessaloniciens. Verset 4, nous savons, frères et sœurs, fraternité qui nous réunit, hein, nous savons, frères et sœurs, que vous êtes aimés de Dieu et qu'il vous a choisis. Vous pouvez aller dans cette semaine en sachant que vous êtes aimé de Dieu. Qu'il soit votre force, qu'il vous accorde la grâce nécessaire un jour après l'autre. Allez en paix. Amen.